VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, nous sommes ensemble pour 10 minutes d'information. Il est 11h. République démocratique du Congo, l'ONU s'inquiète de la non-formation d'un nouveau gouvernement près de 2 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi. Le sujet a été évoqué devant le Conseil de sécurité de l'ONU hier. Idrissa Seydoudia.
Les Nations Unies ont exhorté hier le président Tshisekedi à former rapidement un nouveau gouvernement. Leyla Zerougui, représentante spéciale et chef de la MONUSCO, a dit au Conseil de sécurité de l'ONU « Les attentes de la population congolaise sont immenses et il est crucial de ne pas la faire attendre trop longtemps ni de la décevoir ». Proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre, l'ex-opposant Félix Tshisekedi, investi en janvier, n'a toujours pas nommé de premier ministre ni de gouvernement. Il est lié par un accord politique à son prédécesseur Joseph Kabila, dont la coalition du Front commun pour le Congo, le FCC, a conservé la majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Direction le Cameroun, le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines a rencontré hier le président Paul Biya. Cette rencontre a eu lieu dans un contexte de vives protestations et critiques de Yaoundé suite aux récentes sorties médiatiques de Tibor Nagy sur la crise anglophone et les arrestations d'opposants. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Ntap.
Pas de couverture médiatique pour une partie de la presse de l'audience que le ministre camerounais de Relations extérieures a accordé à Tibor Nagy. Par contre, au palais présidentiel, où le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines a été reçu par le président Paul Biya, une heure durant, une poignée de journalistes y a été conviée. Face à ceci, Tibor Nagy a commenté ses récentes déclarations sur la situation du Cameroun. Il dit avoir apprécié que les Camerounais aient réagi de diverses manières à ses propos.
Les citations peuvent toujours être interprétées de tant de manières. Et c'est pourquoi je dis que j'aime le fait que la presse camerounaise soit très dynamique, très enthousiaste. Et comme je l'ai dit, les articles sont intéressants à lire. Je ne suis ni ange ni démon.
Des propos diplomatiques qui n'altèrent pas les vives critiques essuyées par le diplomate américain Jean-Baptiste Atemeng, militant du RDPC, le parti au pouvoir.
C'est évident que c'est une ingérence. Le responsable américain ne maîtrise pas très bien la situation ici. Un groupuscule s'est érigé contre le choix des Camerounais, majoritairement à 71%, qui s'est porté sur un candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre et une minorité qui a obtenu 14%. Et quand une grande puissance veut prendre position par rapport à une telle situation, il vaut mieux qu'ils mettent leur puissance au service de la démocratie.
Cette grille de lecture des sorties médiatiques de Tibor Nagy sur les crises que traverse le Cameroun n'est pas partagée par Christopher, un Camerounais originaire de la région du Sud-Ouest, en zone anglophone.
Le droit d'ingérence n'existe pas. Nous sommes dans un monde globalisé. Ce que Tibor dit, ce que l'Amérique dit, c'est réel. Ce pays est en feu. 7 régions sur 10, c'est en feu.
Mardi dernier, le sous-secrétaire d'État américain avait suggéré la tenue d'un forum international sur la crise anglophone. Difficile de savoir si une telle proposition a été faite au président Biya. C'est peu après que la présidence de la République a publié un tweet et une photo sur l'audience que Paul Biya a accordée au diplomate américain Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Le candidat malheureux à la présidentielle du 23 février au Nigeria, Atiku Abubakar, a déposé une requête en justice pour contester formellement les résultats donnant le président sortant Muhammadu Buhari vainqueur, a annoncé son avocat à la presse. Le candidat du Parti démocratique populaire, PDP, était arrivé second derrière le chef de l'État, vainqueur avec une avance de près de 4 millions de voix sur son principal rival, soit 56% des suffrages contre 41%. Monsieur Abubakar avait aussitôt dénoncer une parodie d'élection et annoncer qu'il allait saisir la justice, dénonçant de nombreuses irrégularités et tricheries. L'opposition a déposé lundi une requête allant dans ce sens devant une cour d'Abuja. Le cyclone qui a balayé en fin de semaine dernière le Mozambique, le Zimbabwe, emportant tout pont, hôpitaux et écoles, a fait au moins 182 morts dans les deux pays, mais le bilan final au Mozambique pourrait dépasser le millier de morts, a prévenu le président Philippe Nyusi. Le cyclone Idai et ses vents d'une extrême violence associés à des pluies torrentielles se sont abattus sur le centre du Mozambique jeudi soir avant de poursuivre leur course au Zimbabwe voisin. Au Zimbabwe, le dernier bilan s'élevait à 98 morts et au moins 217 disparus, selon le ministère de l'Information. En Algérie, le chef d'état-major de l'armée a appelé hier à la responsabilité de chacun pour trouver des solutions dans les plus brefs délais à la crise que connaît le pays. Théâtre depuis presque un mois d'une contestation massive du pouvoir en place. Bagassikoura.
Le général Ahmed Gaïd Salah a, au cours d'une visite d'inspection dans le sud-ouest du pays, déclaré que toute personne sage et sensée, dotée de patriotisme et de clairvoyance, est consciente qu'à chaque problème existe une solution, voire plusieurs, quelle que soit leur complexité. Le général Salah, un proche du chef de l'État et membre du premier cercle du pouvoir algérien, a salué le patriotisme et le civisme inégalé des Algériens qui manifestent pacifiquement depuis le 22 février pour réclamer le départ du président Abdelaziz Bouteflika et du système au pouvoir. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, lui, a confirmé dans un message lundi qu'il prolongerait son quatrième mandat au-delà de son terme constitutionnel le 28 avril jusqu'à un nouveau scrutin organisé à l'issue d'un processus de révision constitutionnelle. Son actuel mandat expire constitutionnellement le 28 avril et le président a annoncé le 11 mars qu'il entend remettre ses pouvoirs à un successeur élu lors du scrutin qui sera organisé à l'issue d'une conférence nationale devant réformer l'Algérie et modifier la Constitution.
Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a lancé lundi un nouvel avertissement aux organisations humanitaires qui recueillent des migrants au large de la Libye et veulent les débarquer dans des ports aux Italiens. Ce nouvel avertissement de Rome intervient alors qu'un navire humanitaire battant pavillon italien, le Mare Jonio, a recueilli lundi 49 migrants au large des côtes de Libye alors que les gardes-côtes libyens étaient présents sur la zone et a demandé l'autorisation de débarquer ces migrants dans un port italien.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Brexit à l'entame d'une nouvelle semaine cruciale pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le président de la Chambre des communes, le conservateur John Bercow, bouleverse les plans de la première ministre Theresa May en déclarant que le gouvernement ne peut légitimement pas demander aux parlementaires de revoter sur un accord de retrait qu'ils ont rejeté la semaine dernière. En revanche, a-t-il argumenté, le gouvernement pourrait soumettre à un nouveau vote un texte qui ne serait pas le même que l'accord rejeté la semaine dernière. C'est selon lui la condition que le gouvernement de Theresa May doit remplir pour pouvoir organiser un troisième vote sur un accord de Brexit. La chef du gouvernement s'était donnée jusqu'à mercredi pour solliciter à nouveau le Parlement de Westminster après deux échecs cuisants. Le président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche son homologue brésilien Jair Bolsonaro au programme de leur première rencontre tête à tête dans le bureau ovale, déjeuner de travail et conférence de presse commune dans les jardins de la Maison-Blanche. Le président des États-Unis et celui de la première puissance d'Amérique latine devraient aussi insister sur une coopération économique renforcée. Le président brésilien a d'ailleurs signé hier un accord pour ouvrir une base brésilienne au lancement de satellites américains. Et puis, la première ministre de Nouvelle-Zélande a adressé aujourd'hui un message de paix appuyé aux musulmans et promis de ne jamais prononcer le nom du tueur des mosquées pour l'empêcher d'acquérir la notoriété à laquelle il aspirait. Devant le Parlement réuni en session spéciale, Jacinta Ardern a également déclaré que le suprémaciste blanc, auteur du carnage de Christchurch dans l'île du Sud, tomberait sous le coup de la loi la plus stricte. Par ailleurs, la police a indiqué aujourd'hui avoir rendu 6 corps de victimes du massacre de Christchurch aux familles impatientes d'enterrer leurs proches, mais a averti que de nombreux corps n'avaient pas encore été formellement identifiés. La police a mené 50 autopsies, mais seules 12 victimes ont été identifiées formellement à ce stade. Selon un communiqué, les délais nécessaires à l'enquête ont été mal vécus par les familles qui auraient voulu pouvoir enterrer leurs morts selon les rites musulmans en 24 heures. Pour terminer, les autorités kurdes en Syrie ont dénoncé les propos menaçants tenus par le ministre de la Défense selon lequel l'armée du régime va libérer par la force ou par le biais d'accords les régions sous leur contrôle à la faveur du conflit déclenché en 2011 en Syrie. Les Kurdes de Syrie ont instauré une autonomie sur de vastes territoires dans le nord et dans le nord-est du pays. Les combattants kurdes sont le fer de lance des forces démocratiques syriennes, les FDS, qui, avec le soutien de la coalition menée par Washington, luttent depuis des mois contre le groupe État islamique. Ils sont actuellement sur le point de déloger l'État islamique dans son dernier réduit dans l'est de la Syrie. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez alors Henri Francisque pour un nouveau journal. À tout à l'heure. Merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.